Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes du Canal M qui vous propose au Kiosque Magazine du 21 janvier, le Kiosque Magazine du lundi.
Oui.
Il est consacré, ce magazine, à la culture et à la société, avec en régie aujourd'hui Jean-Sébastien Laliberté, que nous saluons.
Oui, bonjour Sébastien.
Et à l'animation, Franceline Nouviard et Roger Roy.
Oui, bonjour.
Bonjour. Et au menu ce matin, aujourd'hui?
Alors, comme c'est le début de l'année, le temps des résolutions qu'on ne tient pas souvent, je vais lire un article sur des activités de mise en forme pour maintenir la santé. Ensuite, deux petits articles pour vous mettre en garde contre les fraudeurs. Le premier, qui gagne, perd. Et le deuxième, protéger l'un de vos biens les plus précieux, votre identité.
Ah,
et enfin, un article intitulé « Votre animal vieillit, que faire ?»
Oh, oh, oh. Bon, pour ma part, je vais vous parler du livre. Est-ce qu'il a un avenir, ce livre? Je vais vous parler aussi de rupture de stock en ce qui concerne les médicaments, la pénurie.
Oui.
On en a des échos depuis un certain temps. Ça arrive à plusieurs occasions qu'on n'ait plus de médicaments, celui qu'on vous avait prescrit. Les pharmaciens n'en trouvent plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais pour tout de suite, je vous parle de chiffres. L'avenir par les chiffres, c'est dans l'actualité de janvier. Et on nous parle de quelqu'un qu'on connaît peut-être moins au Québec, mais en 1996, il a publié un livre qui a prévu l'avenir par les chiffres. Il s'agit de David Foote. C'est un démographe, professeur d'économie à l'Université de Toronto. C'est Jonathan Trudel qui l'a rencontré et qui nous présente un compte-rendu de ses propos dans l'actualité de janvier, donc. Et en introduction, Jonathan Trudel écrit... Vendre 300 000 exemplaires d'un essai sur les tendances démographiques, avec un point d'interrogation, peu de gens auraient osé prédire ça. Pas même son auteur, reconnaît en riant David Foote. Dans « Entre le boom et l'écho », publié en 1996, ce professeur d'économie à l'Université de Toronto résumait en termes simples l'essentiel de ses recherches sur le baby boom et ses conséquences. « L'étude des populations humaines », clamait-il, est l'outil le plus puissant pour comprendre le passé et prévoir l'avenir. Pour reprendre sa formule choc, la démographie explique les deux tiers de tout des cycles dans le secteur de l'immobilier à la chute des taux de criminalité en passant par les tendances sociales comme l'acceptation grandissante du mariage gay. Propulsé au sommet du palmarès des ventes tant au Canada anglais qu'au Québec, son livre a fait de David Foote un conférencier recherché. Il a aussi contribué à faire connaître une science jusqu'alors méconnue. Question posée par le journaliste Jonathan Trudel. Vous vouliez rendre la démographie incontournable. Avez-vous atteint votre objectif? Réponse, à moitié seulement. Je crois que les gens sont plus au fait de l'importance de la démographie qu'ils ne l'ont jamais été, tant dans le secteur privé que public. Mais il y a un décalage entre les discours et la réalité, malheureusement. Les décideurs choisissent encore trop souvent de ne pas tenir compte des chiffres quand ils prennent des décisions qui ont une incidence sur l'avenir. Prenons l'exemple de la surpopulation dans les écoles et les garderies de nombreuses municipalités, surtout en banlieue. Les enfants des boomers ont eu des enfants, c'était très prévisible. Pourtant, ça semble avoir pris les pouvoirs publics par surprise, surtout en Ontario et en Alberta. Il y a pourtant des démographes au service de l'État, oui, mais leurs patrons ne les écoutent pas. Au Canada, les décideurs ont une perspective à très court terme. Nos politiciens travaillent en fonction de cycles électoraux de 2, 3 ou 4 ans. Ils ne pensent jamais à long terme. Les patrons des entreprises touchent des primes de performance pour penser 1 an à la fois. C'est d'ailleurs pourquoi la productivité de nos entreprises accuse du retard. Les gouvernements leur donnent des congés de taxes, mais ils ne veulent investir dans aucun projet qui ne leur rapporterait pas immédiatement dans l'année. C'est triste. Mais les profits à court terme mènent le monde dans le privé comme dans le public. Vous aviez prévu la crise des retraites il y a 20 ans. Sur quelles données vous fondiez-vous? Une partie de la crise actuelle a été causée par les faibles taux d'intérêt qui plombent les rendements des régimes de retraite. Or, des taux d'intérêt étaient hautement prévisible. Je reprends ma phrase. La chute des taux d'intérêt était hautement prévisible quand les boomers empruntaient tous pour s'acheter des maisons dans les années 70 et 80. ça poussait les taux d'intérêt à la hausse. Quand les boomers ont fini de rembourser leur emprunt hypothécaire dans les années 90 et 2000, ça allait forcément pousser les taux d'intérêt vers le bas. C'est une question d'offre et de demande. Y a-t-il des tendances que vous n'aviez pas prévues? Jamais je n'aurais pensé que les taux allaient chuter si bas et qu'ils entraîneraient une surchauffe du marché immobilier au pays. J'aurais dû faire le lien entre ces bas taux et la hausse de la demande de maisons rendue plus abordable. Cela dit, une partie du boom immobilier vient du fait qu'on a accordé des prêts hypothécaires à des gens à qui on n'aurait jamais prêté auparavant, ceux qui avaient moins de 10 % de mise de fonds, par exemple. Je n'avais pas prévu que les gouvernements allaient continuer de soutenir le boom immobilier, mais de façon générale, il est quasi impossible de prédire les politiques gouvernementales. Peut-on prédire comment les gens vont voter dans l'avenir? J'avais fait l'hypothèse au début de mes travaux que le vieillissement de la population se traduirait par une société plus conservatrice. Mais dans les faits, les Canadiens ne deviennent pas plus conservateurs en vieillissant. Leur vote se disperse partout. La seule conclusion possible, c'est que l'âge est un très mauvais indicateur du comportement électoral des gens. Sur la base de projections démographiques, il est possible de prédire certaines tendances sociales, comme l'appui grandissant au mariage gay, mais il est plus ardu de prédire la réponse ou l'absence de réponse des partis politiques à ces demandes. La réalité démographique du Moyen-Orient explique en partie les conflits meurtriers qui s'y multiplient depuis des années. Dites-vous pourquoi? Il dit « Les pays dans cette région du monde sont très instables parce qu'ils n'instruisent pas les femmes et ont un taux de fertilité très, très élevé. Résultat, ces pays comptent énormément de jeunes sans emploi. Ça représente une influence très déstabilisante pour une société. D'une certaine façon, l'Irak, à l'époque de Saddam Hussein, désirait, entre guillemets, une guerre de terrain parce qu'il comptait beaucoup de jeunes hommes désœuvrés. L'Irak n'était que le début. L'Afghanistan, la Syrie, l'Égypte et l'Arabie saoudite ont un profil démographique similaire. » Alors, il explique pas mal de choses par les chiffres, ce monsieur David Foote, et c'est Jonathan Trudel qui l'a rencontré avec le titre qu'il donne à son article « L'avenir par les chiffres » dans l'actualité de janvier.
Alors maintenant, tiré de la revue Protégez-vous, l'article Nouveau départ. Que vous choisissiez de vous entraîner au gym ou à la maison, votre défi sera de garder votre motivation à long terme. Pour y arriver, il faut se donner un objectif précis. Se mettre en forme, c'est trop vague, il n'y a donc pas d'engagement. Il faut plutôt se dire qu'on veut courir les 10 km dans 6 mois ou perdre 2 livres par semaine pendant 2 mois. Mais attention! Si l'écart entre la situation souhaitée et la situation actuelle est trop grand ou trop petit, la motivation diminue. La personne doit aussi se demander si elle croit en ses capacités d'atteindre son objectif et quels seront les bénéfices concrets pour elle, explique Alain Vigneault, éducateur en psychologie sportive. La stratégie gagnante ? Établissez des étapes de progression et parlez-en à vos proches, c'est la meilleure motivation. Autre gage de réussite ? Intégrez l'activité physique à votre routine hebdomadaire, comme vous le faites pour les visites au supermarché. Inscrivez ces moments d'exercice à votre horaire 3 ou 4 fois par semaine et ne les déplacez qu'en cas d'urgence. Sachez néanmoins qu'à un moment ou à un autre, la baisse de motivation est inévitable, indique la docteure Chantal Guimond, professeure au département de médecine familiale et entraîneuse d'une équipe de vélo féminine. Vous devez accepter qu'il y aura des périodes où vous ferez moins d'exercices et ne pas vous flageller, ni en profiter pour abandonner. Sauter 2 semaines d'entraînement ne signifie pas que tout est perdu. Il suffit de revoir vos objectifs et de modifier votre routine pour retrouver votre allant. Protégez-vous va faire le tour des formules d'entraînement existantes pour vous aider à choisir celle qui convient le mieux à votre personnalité et à votre portefeuille. Quelles activités et à quel prix? Avant l'âge de 30 ans, le manque d'assiduité à l'entraînement peut passer inaperçu. Après, les effets de la sédentarité se font sentir. Essoufflement à l'effort, maux de dos, problèmes de posture, fatigue accrue. De plus, entre 30 et 50 ans, vous perdrez 50% de votre masse musculaire si vous ne vous activez pas. Bref, faire de l'exercice régulièrement n'est pas une option, mais une nécessité, selon la docteure Guimond. Un programme de conditionnement physique complet comporte des exercices cardiovasculaires et de musculation. Les premiers permettent de brûler des calories et renforcent le cœur et les poumons, alors que les seconds aident à maintenir votre masse musculaire, ce qui se traduit par un accroissement de votre force et de votre métabolisme de base. Votre corps consommera donc plus d'énergie et dépensera plus de calories, même au repos. Alors pour le cardio, un adulte devrait faire au moins 30 minutes d'activité physique 3 ou 4 fois par semaine. L'intensité de l'effort doit être modérée, c'est-à-dire à un niveau suffisamment exigeant pour provoquer un léger essoufflement et une augmentation du rythme cardiaque. Le choix d'activités est vaste, jogging, marche rapide, vélo, natation, ski de fond, danse. L'important est de trouver une activité que vous aurez envie de pratiquer de façon répétée. Pour éviter la routine, diversifiez vos activités en fonction des saisons et des jours de la semaine. Vous voulez combiner cardio et activité sociale? Choisissez les séances de groupe de danse aérobique, de vélo stationnaire, proposées par des centres de conditionnement physique. Les écoles de danse peuvent aussi vous faire transpirer avec leurs cours de salsa, tango, hip-hop. Si votre budget est serré, plusieurs cours sont offerts dans les piscines et les centres sportifs municipaux, ainsi que dans les centres sportifs des écoles secondaires, cégep et universités. Vous préférez les activités en solitaire? La course, le vélo, le ski de fond et la natation ont l'avantage de pouvoir se pratiquer n'importe où et à peu de frais. Pour la musculation maintenant, les exercices de musculation font gagner en force et en endurance. Ils devraient être intégrés à votre routine de 2 à 4 fois par semaine. Choisissez le type d'entraînement qui respecte à la fois votre budget et votre horaire. L'entraînement au gym. Les centres de conditionnement restent le meilleur endroit pour faire de la musculation selon les kinésiologues. Ouverts souvent dès 6 heures et jusqu'à 22 heures tous les jours de la semaine, ils disposent d'une variété d'appareils et de petits équipements pour renforcer vos muscles. À votre première visite, un entraîneur vous rencontrera pour établir un programme adapté à vos objectifs et vous aidera à évaluer quel poids vous devez soulever. Par la suite, vous pourrez réserver ses services pour superviser vos entraînements ou réviser votre programme. Si vous préférez les activités dirigées et les ambiances de groupe, explorez plutôt l'offre de cours. Le pilates, le yoga ou la gymnastique douce permettent de développer la force musculaire en travaillant en profondeur les différents muscles. L'entraînement à la maison aussi. Vous pouvez faire votre musculation à domicile sans ouvrir votre portefeuille. Internet regorge de programmes qui misent sur des exercices ne nécessitant pas d'équipement. À moins de souffrir d'ostéoporose ou de problèmes de santé particuliers, il y a peu de risques de se blesser en faisant seul des exercices de musculation. L'important, c'est d'y aller doucement, graduellement et de respecter ce qu'on ressent, ajoute le docteur Guimond. Les magasins proposent pour quelques dizaines de dollars ou moins des ballons, des bandes élastiques et de petites haltères. Ces accessoires ne sont pas indispensables, mais ils permettent d'augmenter l'intensité de certains exercices. Et pour terminer, 6 trucs pour rester motivé. Premièrement, fixez-vous un objectif simple et atteignable à court terme. Deuxièmement, trouvez un sport ou une méthode d'entraînement qui vous convient et que vous aimez. Troisièmement, placez l'exercice en priorité dans votre horaire. Quatrièmement, diversifiez vos méthodes d'entraînement. Cinquièmement, tenez un journal de vos activités et de vos progrès. Et enfin, parlez de votre programme et de votre objectif à vos amis afin de maintenir votre motivation. Voilà, c'était quelques éléments tirés de l'article Nouveau départ de la revue Protégez-vous, janvier 2015.
Et Jean-Sébastien se demande pourquoi on n'a pas parlé de la raquette.
Ah enfin, oui.
On y reviendra.
On en a parlé la semaine dernière.
La ville est disparue sous les retailles de l'été, les oiseaux perdus traînent les rues, il ne reste plus rien dans le ciel en morceaux. On va se parler de la météo. Sur les trottoirs mouillés, les animaux dépareillés s'en vont deux par deux, les yeux fermés à la fête des morts. La nuit déguise les corps. Vous ne saurez jamais qui je suis.
Et maintenant, un texte qui traite d'une question sérieuse pour les médicaments, rupture de stock. C'est le titre du papier de Catherine McIntyre qu'on peut lire dans le Reader's Digest du mois de janvier. Les médecins canadiens ont dû s'habituer aux graves pénuries de médicaments qui privent leurs patients de solutions de rechange abordables, voire même de traitements. Pour donner un exemple de la situation qui existe depuis quelques années au Canada, la journaliste donne le cas de Pauline Grahat, 67 ans, de Windsor, en Ontario. En 2005, on lui avait prescrit un médicament contre le risque d'épilepsie suite à l'exérèse d'une tumeur au cerveau. Un an après l'opération, une crise convulsive l'avait conduite à l'hôpital et plongée dans un coma artificiel de 4 jours. 2 comprimés quotidiens de 10 mg de clobazam, lui avait permis depuis d'apaiser les crises et de maintenir une vie sociale active. En février 2014, Pauline fit renouveler son ordonnance, mais de retour à la maison, elle regarda dans le sac et rappela aussitôt la pharmacie. On lui avait donné de l'APO, une autre version de son médicament de prédilection, c'est-à-dire le Tevaclobazam. Le pharmacien lui expliqua qu'une pénurie nationale de clobazam venait de frapper Windsor, en Ontario, l'obligeant à distribuer des substituts aux patients. Pauline Grahat ne pouvait pas s'adapter à ces substituts. Elle faisait des migraines lancinantes et son cerveau s'embrumait. Heureusement, moins d'un mois plus tard, son pharmacien a pu se procurer suffisamment de comprimés de teraclobazam pour 3 mois de traitement. Jusqu'à récemment, une pénurie aussi longue aurait été impensable. Certes, les pharmacies manquent parfois temporairement de médicaments en raison de la hausse de certaines prescriptions dans une région donnée ou de retard de livraison, mais les pharmaciens se tournent généralement vers une autre pharmacie. Toutefois, depuis 4 ans, les pénuries se sont aggravées et allongées. Depuis 2012, plus de 500 pénuries partielles ou totales de produits pharmaceutiques ont été signalées. À ce jour, près de 250 médicaments sont concernés. Cela semble être une fraction des 8754 médicaments sur ordonnance vendus au Canada. Toutefois, les pénuries touchent des médicaments de soins intensifs, anesthésiants, antibiotiques, antalgiques et anti-inflammatoires qui peuvent semer le chaos dans le système de santé. La pénurie de tevaclobazam n'était qu'une partie d'un vaste problème touchant des millions de Canadiens, Des patients atteints d'un cancer de la vessie ont risqué l'ablation de cet organe en l'absence du seul médicament efficace. D'autres, souffrant de glaucome, craignaient de devenir aveugles par manque de gouttes ophtalmiques. Les ministres de la Santé du fédéral, du gouvernement fédéral et des provinces et les fabricants de médicaments imputent les pénuries à la mondialisation croissante de cette industrie. Nombre d'entreprises canadiennes font affaire aussi aux États-Unis, en Asie, en Amérique du Sud et en Europe. Une pénurie de matières premières dans un pays peut affecter le processus de fabrication dans un autre. La montée de la classe moyenne en Chine, au Brésil et en Russie a également accru la pression sur les fabricants. De plus en plus d'États ont les moyens d'acheter de grandes quantités de médicaments. De 2009 à 2011, la Chine a investi environ 175 milliards de dollars dans de nouveaux hôpitaux et cliniques, et la demande dépasse souvent l'offre. L'instabilité des stocks de médicaments découlerait aussi du renforcement des inspections des usines. Sandoz en est l'exemple le plus récent. Fournisseur de la quasi-totalité des médicaments injectables au Canada, il a dû cesser temporairement sa production après une inspection de la FDA et un incendie dans son usine de Boucherville au Québec. Si la raréfaction des matières premières, la hausse de la demande et les inspections d'usines jouent un rôle, Aidan Hollis croit que le principal problème est financier. Les médicaments génériques ne sont pas assez rentables. Professeur d'économie à l'Université de Calgary, M. Hollis a vu en 20 ans d'études du secteur pharmaceutique dégringoler les prix des médicaments génériques. À première vue, cela peut sembler positif. Des régimes d'assurance médicaments moins chers devraient permettre aux provinces d'investir ailleurs. Mais selon lui, c'est plutôt un moteur de pénurie. Alors, il dit, en tirant les prix vers le bas, on pousse les fabricants à abandonner la production de certains produits, faute de pouvoir en tirer des bénéfices. Par ailleurs, l'un des problèmes majeurs qui se soulève, c'est que les fabricants de médicaments ne préviennent pas les médecins et les pharmaciens à temps.
Oui, c'est inquiétant.
C'est très inquiétant. Alors, avant que la rupture de stocks intervienne, là, on ne donne pas de préavis aux médecins ni aux pharmaciens. Et selon l'Association de médicaments génériques, une fois que les produits sont chez le grossiste, les fabricants ne contrôlent plus forcément la quantité sur le marché. Il est donc difficile de savoir exactement quand les stocks commencent à baisser dans les pharmacies. Madame Nurse, qui est spécialiste de l'information pour l'épilepsie en Ontario, explique qu'elle n'est pas informée des pénuries qu'après plusieurs semaines, un fabricant a même mis 15 jours pour répondre à sa demande de publier un avis à l'effet qu'une pénurie se présentait. Alors, c'est un texte, je vous ai donné l'essentiel, c'est un texte assez substantiel. C'est publié dans le Reader's Digest du mois de janvier, signé par Mme Catherine McIntyre.
Alors, quelques brèves. La première, taxicologue. En Suède, des psychologues ont récemment offert des séances de consultation dans des taxis. Le but, aider les résidents de la capitale suédoise à lutter contre la dépression saisonnière, un mal répandu dans cette contrée nordique et dans la nôtre. Le temps du trajet, le thérapeute s'assoyait aux côtés du passager qui devait préalablement faire une demande par téléphone pour profiter de ce service de consultation, qui s'ajoute au prix de la course.
Vieillir haut avec un accent circonflexe, Canada. Le Canada arrive au quatrième rang des meilleurs pays où vieillir selon un palmarès dressé par Helpage International, une ONG qui défend les droits des personnes âgées. Le classement recense 96 pays et leur attribue une note en fonction du bien-être économique et social des personnes âgées. La Norvège, la Suède et la Suisse surclassent le Canada À l'autre bout du spectre, qu'il eût cru l'Afghanistan.
Ah oui.
Autre texte, autre court topo. Oui, l'ADN, l'empreinte du stress. Les enfants nés dans les mois qui ont suivi la crise du verglas de 1998. On parle d'ici, là. Portent dans leur génome des traces du stress vécu par leur mère. C'est ce qu'a découvert une équipe de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas et de l'Université McGill en suivant 150 familles dont la maman était enceinte pendant la tempête ou peu après. Chez 36 enfants, les chercheurs ont découvert à l'intérieur des lymphocytes T, une modification chimique de l'ADN. Les effets sur la santé des enfants ne sont pas manifestes, mais ces ados pourraient être plus vulnérables à l'asthme, au diabète ou à l'obésité.
Alors, 10%, c'est la hausse en un an du nombre de rhinoplasties, cette intervention pour corriger la forme du nez, et ça se passe aux États-Unis. La principale cause de cette flambée, l'égoportrait ou selfie, qu'on prend avec son téléphone, rapportent les chirurgiens plastiques. On peut plus se voir.
C'est ça.
Abat le célibat. Une campagne publicitaire encourageant le mariage et dénonçant les célibataires, qui consomment plus de marchandises, d'électricité et de carburant que les autres, soulève la polémique chez les Turcs. Conçue par le ministère de la Famille et des Politiques Sociales, les affiches de la campagne contre la solitude représentent des personnes seules sous la forme de silhouettes noires, anonymes, transportant leur propre tête dans un sac, une image qui rappellerait trop les actes de barbarie commis par l'organisation terroriste État islamique.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors, pour vous mettre en garde contre les fraudeurs, deux petits articles tirés de la revue Virage de l'automne 2014. Le premier, qui gagne perd ? Prenez garde aux faux concours et promotions, par l'Office de la protection du consommateur. On vous annonce que vous êtes l'heureux gagnant d'un magnifique prix. Avant de vous emballer, il est sage de faire quelques vérifications. Vous demande-t-on de mettre la main dans votre portefeuille pour obtenir votre prix ? Sachez que la loi interdit cette façon de faire. Une lettre qui vous est adressée se démarque parmi les circulaires, ou une fenêtre s'ouvre sur Internet alors que vous cherchiez simplement une idée de repas pour le souper. Dans un cas comme dans l'autre, on vous dit que vous avez été sélectionné pour une promotion exclusive ou que vous avez remporté un prix. Des entreprises comme celles qui se spécialisent dans la vente par correspondance utilisent ce stratagème pour attirer de nouveaux clients. Soyez donc vigilants. Si vous devez débourser 200$ pour profiter de votre prix, vous n'avez probablement rien gagné. C'est plutôt une stratégie pour vous vendre un bien. Peu importe l'offre qui vous est faite, lisez bien l'information fournie, y compris les petits caractères. Vous pouvez aussi comparer le prix du produit avec un produit similaire vendu en magasin. Assurez-vous également que le commerçant donne son nom et son adresse, sans quoi il vous sera difficile de faire valoir vos droits en cas de problème. Attention, un voyage gratuit est parfois une stratégie pour vous faire signer un contrat de vacances à temps partagé. Dans un salon sur le voyage, vous laissez vos coordonnées dans le but de participer à un concours. La semaine suivante, le téléphone sonne. Vous avez gagné un voyage en République dominicaine. La plage et la mer des Caraïbes n'attendent que vous. Pour récupérer votre prix, il vous suffit d'assister à une présentation le samedi suivant. Vous avez probablement envie de répondre « j'irai ». Mais la prudence est toutefois de mise. Cette stratégie pourrait être utilisée pour vous attirer à une présentation où des vendeurs aguerris tenteront de vous faire signer un contrat de vacances à temps partagé. En signant un tel contrat, vous vous engagez à payer pour des vacances année après année jusqu'à l'expiration du contrat. Certains vous engagent pendant quelques années, d'autres jusqu'à 30, 40 ou 50 ans. Quand vous signez un contrat de vacances à temps partagé, comme lorsque vous concluez tout autre contrat, vous vous engagez à respecter l'entente prise avec le commerçant. Avant d'apposer votre griffe, assurez-vous donc que les promesses du vendeur sont bel et bien inscrites dans le contrat. Enfin, prenez votre temps. Toute offre qui vous est faite aujourd'hui sera encore valide demain. On vous dit que vous avez remporté un prix, mais au bout du compte, on cherche à vous vendre des produits ou des services. Ces déclarations mensongères pourraient s'avérer illégales. Vous pouvez alors porter plainte auprès de l'Office de la protection du consommateur qui a rédigé ce document. Autre article, protégez l'un de vos biens le plus précieux, votre identité. Après la santé, l'identité constitue l'un des biens les plus précieux d'une personne et des plus convoités par les fraudeurs. Si un voleur peut s'approprier votre identité en quelques heures à peine, vous pourriez mettre des mois, voire des années, pour rétablir votre réputation et votre dossier de crédit. Voilà pourquoi il faut redoubler de vigilance pour éviter d'être la prochaine victime. En effet, un fraudeur pourrait se servir de vos renseignements personnels pour faire des emprunts, ouvrir un compte bancaire, obtenir un passeport, etc. On parle de vol d'identité lorsque quelqu'un prend délibérément l'identité d'une autre personne et utilise les renseignements personnels de celle-ci à des fins criminelles. Outre vos noms, adresses et numéros de téléphone, les voleurs recherchent les autres données qu'ils peuvent relier à ces renseignements, comme vos numéros de permis de conduire, de carte de crédit, de compte bancaire, d'identification personnelle, votre NIP. Un fraudeur pourrait se servir de votre numéro d'assurance sociale, de votre date de naissance ou de tout autre renseignement servant à vous identifier, pour faire des emprunts, ouvrir un compte bancaire, obtenir un passeport, toucher des indemnités de gouvernement. Résultat, vous pourriez être tenu responsable de dettes que vous n'auriez jamais contractées. Quelques conseils pour rester unique. Certains voleurs d'identité utilisent des moyens rudimentaires, comme le vol du courrier ou la fouille de poubelle. D'autres ont recours à des techniques plus raffinées grâce à la technologie. Clonage de cartes de crédit, utilisation d'Internet pour hameçonner, c'est-à-dire pour envoyer des courriels non sollicités. D'où l'importance de garder les yeux ouverts et de prendre certaines précautions, comme par exemple. Assurez-vous que votre boîte aux lettres est sécuritaire en la munissant d'une serrure. Votre poubelle est aussi une mine d'or pour les voleurs. Déchiquetez les documents où figurent vos renseignements financiers, tels relevés, offres de cartes de crédit, formulaires d'assurance, etc. On vous demande des renseignements personnels par téléphone. Vérifiez d'abord si l'entreprise ou votre institution bancaire effectue ce genre d'opération. Vous faites des transactions sur Internet ? Assurez-vous que le site est doté d'un système de paiement sécurisé, par exemple en vérifiant si un petit cadenas apparaît en bas à droite de l'écran. Surveillez vos factures de prêt. Si vous ne recevez pas vos factures habituelles, appelez la compagnie concernée et vérifiez que ces factures n'ont pas été illicitement détournées. Avisez immédiatement votre institution bancaire et vos créanciers en cas de perte ou de vol de vos cartes d'identité ou de crédit. Mais malgré votre grande vigilance, il se peut que vos renseignements personnels tombent entre des mains des voleurs. Une autre façon de vous protéger, c'est de vous procurer une assurance en cas de vol d'identité qui s'ajoute habituellement à votre assurance habitation. En détenant cette protection, vous pourriez être indemnisé pour les frais relatifs à la restauration de votre identité et avoir accès à un service téléphonique pour profiter des conseils d'un expert sur les démarches à entreprendre à cet égard. Comme la protection peut varier d'un assureur à l'autre, mieux vaut vous informer auprès de votre courtier. Voilà, c'était des informations données par Intact Compagnie d'assurance dans la revue Virage d'automne 2014.
On n'est jamais trop prudent.
Eh oui.
Chacun peut avoir sa petite idée là-dessus, mais le livre papier, est-ce qu'il a un avenir? C'est une question à laquelle tente de répondre des auteurs de livres, les premiers intéressés. C'est Pierre Duchesneau qui les a rencontrés. Et il écrit ceci: « À l'heure où des maisons d'édition ferment boutique où des lecteurs trompent leur libraire avec une liseuse électronique, l'actualité a demandé aux finalistes 2014 des prix littéraires du gouverneur général de faire part de leur vision du livre. Entre optimisme inébranlable et appréhension technologique, voici les réponses de certains d'entre eux. » Alors, c'est Pierre Duchesneau qui a interrogé ses auteurs. Voici ce qu'ils ont répondu, par exemple. Michael Delisle, il est finaliste dans la catégorie « Romans et nouvelles ». Sa réponse est la suivante. « Lire est une activité. Il n'y a rien de passif dans la récréation des univers par le lecteur. Le livre est menacé par tout ce qui encourage la passivité végétative. » Alors, voilà pour un optimiste. Robert Lalonde, lui, cite Umberto Eco, qui disait « On peut toujours tenter d'inventer un nouveau moyen de faire rouler une voiture que la roue. Cependant, je doute qu'on trouve mieux. » Et Lalonde ajoutait « Le livre, s'il vient à perdre sa suprématie, la retrouvera pour la simple et bonne raison qu'il est déjà le soutien le plus simple et le plus efficace de l'écriture. Ça n'empêche pas les autres moyens de prévaloir momentanément. » Monsieur Éric Fontaine. Tôt ou tard, le livre papier prendra le chemin du gramophone ou de la cassette 8 pistes. Les habitudes de lecture qui changent finiront par imposer leur logique. Ça n'annonce pas pour autant la fin du livre. Nous serons toujours aussi friands d'histoire. Quelle forme prendront-elles, je ne sais trop. Je ne me suis jamais fait à la liseuse ni au livre audio, car je suis de la vieille école. J'aime que le livre sur lequel je viens par mégarde de verser une tasse de café puisse encore me révéler ses secrets.
Eh oui.
C'est un article qu'on tient entre les mains. Simon Boudreau, le livre, c'est la trace, la marque laissée au sol, l'objet concret de la mémoire. On peut croire qu'avec les multitudes d'appareils rétro-éclairés qui nous envahissent, les livres pourraient disparaître. Mais quand je vois ma fille qui prend un livre comme un trésor, qui échange des livres avec ses amis, qui joue à écrire son livre, ou plutôt sa série d'aventures d'Abrika, la princesse de l'espace, je me dis que le livre a encore une place de choix. Dave Corriveau. J'ignore quel sera l'avenir du livre, mais je sais ce que je lui souhaite, un avenir long et prospère. Ma mère m'a donné le goût jeune de la lecture. C'est l'un des plus beaux cadeaux qu'elle m'a fait. Mélanie Tellier. Comme disait l'auteur Ray Bradbury, un ordinateur ne sent rien. Le livre doit sentir quelque chose. Vous devez le tenir entre vos mains et lui adresser votre prière. Vous le mettez dans votre poche et vous marchez avec lui. Il reste avec vous pour toujours. Mais l'ordinateur ne fait pas ça, je suis désolé. Question d'interprétation, là. Olivier Kemeid, lui, dit ceci. On a cru à la mort de la radio lors de l'apparition de la télévision. On a chanté la mort du théâtre avec l'avènement du cinéma. On a pleuré la disparition de la sculpture avec la naissance de la 3D. Et pourtant, radio, théâtre et sculpture sont encore présents, renouvelés certes, mais encore vivants. Jean-Jacques Pelletier, le livre comme objet de papier, je ne sais pas trop, probablement une utilisation plus restreinte et plus spécialisée. Par contre, pour ce qui est de la réflexion, de la fiction et de la poésie, je suis certain qu'elles trouveront toujours des supports qui permettront leur partage, car ce sont des activités essentielles de l'être humain. Alors, le livre a-t-il un avenir? Point d'interrogation. Parlant de livres, sous une autre rubrique du même numéro de l'actualité, celui du 15 décembre, on peut lire de courts aperçus de parutions récentes. Je vous en donne quelques-uns de ces aperçus. Un livre qui s'appelle « Sœurs volées » par Emmanuel Walter. Selon la GRC, 1181 femmes autochtones ont disparu ou ont été assassinées de 1980 à 2012 au Canada, un chiffre beaucoup trop élevé. La journaliste Emmanuelle Walter s'est penchée sur ce problème, une honte nationale pour le pays. Son essai traite plus précisément de la disparition en 2008 de Maisie Ojik, 16 ans, et de son amie Shannon Alexander, 17 ans, de la réserve de Kitigan-Sibi, près de Maniwaki. C'est à partir de ce cas, sur lequel elle a mené une enquête approfondie, qu'elle brosse un portrait préoccupant de la situation de nombreuses femmes autochtones et inuites au Canada. Elle veut comprendre pourquoi tant d'entre elles disparaissent ou meurent à la suite de violences. La réponse est complexe et la solution exigera des efforts soutenus de toute la société canadienne. Sœur volée par Emmanuel Walter. Alors, dernier livre dont je voudrais signaler la parution, c'est plutôt l'actualité qui le fait, mais je vous transmets le message. Le livre, c'est Vortex, la vérité dans le tourbillon de l'information par Michel Lemay. Sommes-nous bien informés? Dans Vortex, Michel Lemay, professionnel de la communication, soutient, exemple à l'appui, que médias et rigueur ne vont pas toujours de pair. Son constat est plutôt sombre. En effet, l'auteur ne semble avoir eu que l'embarras du choix parmi les cas avérés de tromperie, de plagiat, de fabrication et de mensonges médiatiques purs et simples qui, pour toutes sortes de raisons, ont entaché la réputation de la profession journalistique et contribué à miner la confiance du public. Alors, c'est le livre Vortex par Michel Lemay.
Les bottes usées par la poussière a trop marché sur les cailloux. Jour après jour, je laisse derrière une ombre qui tombe à genoux. J'ai accroché à ma ceinture un vieux couteau, un peu d'argent. De quoi survivre à l'aventure et continuer plus loin qu'avant. Je me laisse aller où la route mène à l'oublier. La route mène, je me laisse aller où la route mène, à l'oublier où la route mène. Je passe dans des villages déserts. L'air est si chaud que tout se tait. Des rivières sales courent vers la mer. Des hyènes détalent vers leur tanière. Le jaune est roux dans les canyons. Ma soeur se noue avec la terre. Dans les cabanes qu'ils se façonnent, les enfants jouent à faire la guerre. Je me laisse aller.
Alors maintenant, un article écrit par Jacqueline Simoneau dans la revue Le Bel Âge de novembre 2014. Il s'intitule « Votre animal vieillit. Qu'allez-vous faire ?» Fido et Minette vieillissent. Bientôt, ils auront peine à vous suivre et souffriront de mille et un maux. Mais en surveillant les signes de l'âge et en prodiguant les soins adéquats, vous leur assurerez santé et confort le plus longtemps possible. Comme chez l'humain, le processus de vieillissement chez l'animal est incontournable. Il n'est toutefois pas identique d'un animal à l'autre. De nombreux facteurs influent sur la longévité de vos petits compagnons à quatre pattes, la génétique, la race, le poids, l'hygiène de vie et la qualité des soins qui leur sont prodigués tout au long de leur vie. La bonne nouvelle, grâce aux progrès réalisés dans les domaines de la médecine vétérinaire, du dépistage et de la nutrition, la longévité des animaux s'est nettement accrue. On peut donc espérer vivre de plus en plus longtemps avec nos fidèles amis. Règle générale, les races de chats et de chiens de petite taille vivent cependant plus longtemps que ceux de taille moyenne ou grande. En moyenne, les chats et les chiens de petite taille vivent de 14 à 16 ans, les chiens de taille moyenne de 11 à 12 ans et les chiens de grande taille de 8 à 9 ans. Des signes à surveiller. À l'instar des humains, des signes de vieillesse apparaissent progressivement chez les animaux. Les systèmes digestifs, urinaires, cardiaques, nerveux, reproducteurs, locomoteurs ralentissent et s'affaiblissent peu à peu. Si certains signes sont évidents, tels que l'apparition de poils blancs près du museau ou sur la tête, ou encore un pelage plus sec, plus terne et moins fourni, d'autres le sont moins. Par conséquent, vous devez être attentif non seulement aux indices physiques chez votre animal, mais aussi aux changements dans son comportement, sa routine, ses habitudes. Toute modification peut cacher un trou plus ou moins sérieux. Histoire de vous faciliter la tâche, voici quelques problèmes fréquemment rencontrés chez l'animal vieillissant. La diminution de la vue et de l'ouïe. Il ne vous accueille plus à votre arrivée ou ne répond pas à un ordre, il se cogne au meuble. Changement des habitudes alimentaires, augmentation ou diminution de l'appétit. Perte ou gain de poids, l'obésité est fréquente chez l'animal âgé car il est moins actif. Affaiblissement de la masse musculaire, baisse du niveau d'énergie, il court moins, se fatigue plus vite, reste couché plus longtemps. Augmentation du niveau d'énergie. Douleur chronique, due à un problème musculaire, à l'arthrose ou à une raideur au dos. Il éprouve de la difficulté à monter ou descendre les escaliers, à se lever, à sauter. Il boite. Il refuse souvent les caresses ou les brossages en raison de la douleur qu'elles provoquent. Confusion ou désorientation, il fixe un point sur le mur pendant de longues minutes. Il demande à sortir et veut tout de suite rentrer. Il se perd sur le trajet qui lui était familier. Changement de personnalité aussi. Manque d'interaction avec l'entourage ou agressivité soudaine. Un animal qui souffre peut devenir agressif lorsqu'on veut le toucher parce qu'il anticipe la douleur. Il peut avoir aussi des cycles de sommeil différents. Il somnole le jour, ne dort pas la nuit. Anxiété, il a peur de rester seul. Il se met à craindre certaines personnes ou certains bruits. On peut diagnostiquer chez l'animal vieillissant les mêmes détériorations que chez l'humain. Les plus fréquentes, les maladies cardiaques et rénales, l'ostéoarthrose, le diabète, l'anémie, les maladies hépatiques, l'incontinence urinaire, les problèmes cutanés, l'hypo ou l'hyperthyroïdisme, les maladies pulmonaires, les cancers et les problèmes dentaires, la gingivite est fréquente. Surveillez notamment l'apparition de kystes ou de bosses car les tumeurs sont fréquentes chez les animaux âgés. Remarquez si votre animal boit et urine plus souvent, s'il s'échappe dans la maison, s'il demande fréquemment la porte ou s'il maigrit. Malgré un grand appétit, cela peut signifier un diabète ou un problème de thyroïde, comme chez les humains. Soyez également à l'affût d'une toux, d'un essoufflement ou d'une difficulté respiratoire. Ne négligez aucun changement. Comment l'aider? Bien entendu, il n'est pas possible d'arrêter l'horloge du temps, ni de guérir tous les bobos de Fido ou de Minette. En revanche, un dépistage précoce et des soins adaptés à leur état peuvent, dans la plupart des cas, ralentir l'évolution de leur malaise, augmenter leur espérance de vie et améliorer leur confort. Bref, ce n'est pas parce que votre animal est âgé qu'il n'y a plus rien à faire. Les visites régulières chez le vétérinaire permettront d'identifier rapidement les problèmes de santé, d'obtenir des soins médicaux adaptés à la condition de votre animal et de recevoir des conseils avisés pour lui faciliter la vie. Le vétérinaire vous renseignera également sur les nouveaux besoins nutritionnels. En effet, il est parfois nécessaire d'augmenter certains nutriments et d'en réduire d'autres pour quand l'animal vieillit. Mais tôt ou tard, vous aurez à faire face à ce dilemme, soigner ou euthanasier. Avec le développement de la science médicale, les vétérinaires ont la possibilité de prolonger l'existence des animaux tout en leur assurant une qualité de vie acceptable. Mais cela a un coût, parfois très élevé. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? Discutez-en avec le vétérinaire pour évaluer l'état de santé de votre animal et voir les options possibles. Informez-vous sur l'espérance de vie. Est-ce qu'un sursis de 2 ou 3 mois vaut la peine ? Parfois, quelques mois de plus permettent d'apprivoiser l'idée de sa mort. Selon les experts, tant et aussi longtemps que la qualité de vie de l'animal est présente et acceptable et que la douleur est maîtrisée, il est raisonnable de poursuivre les soins si on le souhaite. Au-delà des sentiments, il y a aussi l'inévitable question financière. Êtes-vous prêt à vous endetter pour le faire soigner ? L'important, c'est d'être en paix avec la décision que vous aurez prise. Chaque cas est unique. Le choix vous appartient et personne n'a le droit de le juger ni de vous juger. Après tout, votre animal a eu jusqu'à présent une vie heureuse et c'est à vous qu'il le doit. C'est tout ce qui compte. Voilà, c'était donc l'article écrit par Jacqueline Simoneau dans la revue Le Bel Âge de novembre 2014.
Alors, des brèves, je suis dans l'actualité du 1er décembre et je vois une devanture de restaurant fast-food, où on aperçoit un coq avec la crête rouge, tout à fait comme chez Saint-Hubert Barbecue.
Absolument.
Oui, c'est ça. Mais c'est en Côte d'Ivoire.
Ah!
Non, les rôtisseries Saint-Hubert n'ont pas ouvert de succursale en Côte d'Ivoire, contrairement à ce que laisse croire cette photo de l'enseigne du restaurant Aclé, prise à Abidjan. Ce logo était déjà en place lorsque j'ai acheté l'établissement l'an dernier, assure son propriétaire Pierre Fils. La direction de Saint-Hubert est au courant que son coq est utilisé en Côte d'Ivoire, mais n'entend pas poursuivre le restaurateur. Pour un si petit établissement, cela n'en vaut pas la peine, dit José Vaillancourt, porte-parole de la chaîne. Et que penser de la bouffe de l'Aclé? Elle ressemble à celle que l'on sert dans les poulets frits Kentucky. Alors, une petite pichenote. Un concurrent.
Alors, un parfum de scandale. À Cuba, le gouvernement a sommé le laboratoire pharmaceutique Labiafam de cesser, juste avant leur commercialisation, la production de 2 parfums pour hommes. Le premier, nommé Ernesto en hommage à l'icône nationale Ernesto Guevara di Leche, et Hugo, référence à Hugo Chavez, ex-président du Venezuela. Une grave erreur, selon le Conseil des ministres, qui accuse le fabricant d'avoir voulu exploiter 2 figures sacrées du socialisme.
Mmh. Parlant de socialisme, en Russie, Poutine, plus capable, plus dans le sens québécois du terme. Beaucoup de personnes déménagent à Riga, qui est la capitale de Lettonie.
Oui.
Bon. Excédé par les politiques et l'arrogance de Vladimir Poutine, de plus en plus de Russes émigrent en Lettonie. Ce pays européen de 2 millions d'habitants, ancienne République soviétique, ouvre grand ses frontières aux Russes, à condition qu'ils y investissent au moins 250 000 euros, c'est-à-dire 350 000 dollars canadiens. De janvier à juillet dernier, 13 800 étrangers s'y sont installés, dont 9 650 Russes, rapporte le Bloomberg Businessweek. Les autres sont pour la plupart chinois et ukrainiens. Selon le ministère de l'Intérieur de Lettonie, cet afflux de nouveaux résidents a permis d'injecter 1,6 milliard de dollars dans l'économie lettonne au cours des 6 premiers mois de l'année. Parmi les Russes qui ont choisi l'exil, on trouve nombre de journalistes irrités par la mainmise de Poutine sur les médias.
Alors, dans cette semaine de lutte contre le tabac, quelques chiffres, mais ça se passe en Chine. En Chine, 300 millions, c'est le nombre de fumeurs. Ensemble, ils consomment le tiers des cigarettes fumées chaque année sur la planète.
Oh.
1 million, c'est le nombre de Chinois qui meurent des suites du tabagisme chaque année. C'est une personne toutes les 30 secondes.
Oh là là.
Ouais. J'ai pas les chiffres pour le Canada.
Bon, un autre chiffre, 29 %. C'est la proportion de travailleurs américains qui ont visité au moins une fois des sites porno au bureau, rapporte le Bloomsburg Business Week. Durée moyenne des visites, une quinzaine de minutes. Un représentant républicain a déposé fin septembre un projet de loi qui rendrait illégal l'accès à ces sites sur les ordinateurs des autorités publiques sous peine de renvoi. On ne rit plus. Et c'était donc le Kiosque Magazine de ce lundi. De ce lundi, quelle date, quel jour sommes-nous aujourd'hui?
21, je crois.
Le 21, autour de ça.
19.
On me dit 19 maintenant à la fin. De toute façon, ça a été un plaisir de lire pour vous des textes extraits de divers magazines au rayon de la culture et de la société. Merci à Jean-Sébastien Laliberté en régie. Ici Franceline Nieuviard et Roger Roy, nous vous disons...
Bonsoir, bonjour, à la prochaine.
À la prochaine, oui.